Chapitre 3. Partir, une idée toute simple et qui pourtant me donnait la chair de poule. Qu'est-ce que je m'étais imaginé? Que la vie n'existait qu'entre les pages des livres? Je promenais mon regard autour de ma chambre, cherchant des excuses pour être dispensé de cette chose effroyable, affronter le monde situé au-delà de la haie de notre jardin. Mais, et ma mère? Le docteur secoua la tête d'un air perplexe. Oui, bien sûr, ta mère. Puis, comme il aurait balayé d'un revers de main ce point embarrassant, il me demanda tout à trac. « Au fait, jeune homme, comment t'appelles-tu »« Daniel. » Il me tendit solennellement la main. « Docteur Marlowe. » Connaissant les usages de la politesse, je lui serrai la main et répondis sans hésiter. « Enchanté, docteur. » Je le vis scier pour effacer de ses yeux une légère surprise avant qu'il ne réplique. « Eh bien, Daniel, on peut dire que c'est là une interruption pour le moins brutale de la vie tranquille que ta mère et toi meniez ici. Il lui faudra peut-être quelques jours pour recouvrer ses esprits. Mais en attendant, tu ne peux pas rester seul. » Il examina la pièce. « Alors dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu voudrais emporter et qui t'apporterait un peu de réconfort ?» Je jetai un coup d'œil autour de moi. Cette chambre minuscule était mon univers. Je connaissais aussi bien, voire mieux, les tableaux accrochés au mur que la vue de la fenêtre. Mais je n'imaginais pas que l'on pût décrocher des tableaux en un clin d'œil pour les raccrocher tout aussi aisément sur un autre mur. Chronos, le dieu du temps, ne m'avait pas encore donné une seule bonne raison de m'intéresser à lui. Je n'avais donc aucune envie d'emporter l'horloge. À vrai dire, hormis les livres de compte, je ne voyais qu'une chose dans cette pièce, qui m'eût procuré des heures de plaisir, beaucoup plus que un peu de réconfort, et il aurait fallu deux hommes forts pour emporter cet objet. Je haussai les épaules. Le docteur me pressa de répondre. « Il n'y a donc ici aucun objet auquel tu tiennes ?»« Si, la maison de poupée. »« La maison de poupée ?» Il parut troublé, comme si son premier diagnostic eût été erroné et que je fusse réellement dérangé. Mais je montrai du doigt la forme recouverte d'une housse qu'il avait sans doute prise pour un meuble que ma mère voulait protéger du soleil. Il souleva un coin de la housse. « Ceci ?» J'acquiesçai. Par curiosité, il retira complètement le tissu vert pâle, et la maison de poupée apparut dans toute sa majesté. L'air faussement surpris qu'il avait affiché tout d'abord, drôle de choix pour un garçon, se mua en une expression admirative. Il se pencha pour examiner de plus près la maison de poupée. Elle était parfaite, avec ses minuscules gouttes de peinture écarlate qui imitaient des roses grimpant sur la véranda, son entrelacs de lierre sculpté dans du bois de poirier, qui s'agrippait au mur et rampait autour des fenêtres jusqu'au dernier garde-fou, ses toits gris très pentus, étrangement imbriqués et hérissés de hautes cheminées. « Elle a été confectionnée avec amour, ça se voit, » murmura-t-il. « Il a dû falloir un temps fou rien que pour faire l'extérieur de cette merveille. » Il avança la main. Je pensais qu'il voulait essayer de trouver le crochet qui permettait à la façade de s'ouvrir en deux, révélant les pièces de la maison et ses escaliers, les passages secrets, le papier peint fané. Peut-être allait-il même fouiller les chambres mansardées et trouver dans leur bric-à-brac une des chaises brodées miniatures afin d'en admirer les points presque invisibles et les pieds en bois fins comme des aiguilles soigneusement cirées. Mais il avait senti, je crois, que jusqu'au choc qu'avait constitué son arrivée inopinée, cette maison de poupée était mon seul et unique univers. Il retira vivement sa main, comprenant que l'ouvrir et triturer ces objets serait comme une intrusion dans une propriété privée. Il se releva et recula en s'exclamant d'un ton très poli. « Un vrai trésor ! Beaucoup trop précieux pour être déplacé à la légère. Mais je veillerai à ce qu'elle ne subisse aucun dommage en ton absence. » Puis, aussi délicatement que l'aurait fait ma mère, il me prit le bras pour me conduire dehors. Chapitre 4. Je ne fus nullement surpris par notre destination, la maison du docteur. C'était la seule personne que j'avais rencontrée. Il m'avait fait sortir de chez moi. Il me semblait donc tout naturel qu'il me conduise dans sa demeure et me présente, tout faible et fébrile que j'étais, à sa femme et à ses filles qui ouvrirent de grands yeux étonnés. Ce fut lui encore que j'assaillis de questions les jours suivants. « Où est ma mère? Quand pourrais-je la voir? N'a-t-elle pas donné de message à me transmettre ?» Question qu'il s'efforçait d'éluder, jusqu'à ce que sa femme arrivât soudain pour m'entraîner dans la cuisine et la salle à manger, où elle me suppliait d'avaler quelque chose. « Tu as réussi à grandir, il faut maintenant que tu prennes des forces. » Une chose m'étonnait bien davantage que mon apparente adoption, la maison elle-même. Pour quelqu'un qui avait vécu reclus, C'était passer d'un monde crépusculaire à une floraison de couleurs. La lumière du matin qui pénétrait par les vitraux rouges et taillés en diamants du vestibule, dessinant sur les dalles de grands losanges brillants, les chandeliers et leurs flammes étincelantes, les tapis chinois dont les riches motifs entrelacés semblaient tournoyer, les reflets des rampes d'escalier bien cirées. Et puis le fait de vivre dans une maison vibrante de sons et de voix, alors qu'auparavant je n'entendais que le discret frou-frou de ma mère quand elle venait dans ma chambre, mes oreilles percevaient à présent les bruits de la vie de famille, des portes que l'on ouvre et ferme sans cesse, le gong annonçant les repas, les remontrances paternelles. « Cécilia, c'est ton manteau qui traîne ici ? Crois-tu que Kathleen et Molly n'ont pas mieux à faire que de ramasser tes affaires ? Sophie, cesse de marcher de ton pas d'éléphant. Marie, ton chat s'est encore sauvé. Regarde s'il n'est pas dans l'allée. » Avec moi, Mrs. Marlowe était la gentillesse même. Ses deux filles aînées et elle se mirent à coudre frénétiquement afin de me constituer une garde-robe. Pour la première fois de ma vie, on m'encourageait à sortir de la maison. D'abord au bras de quelqu'un, de peur que je trébuche, puis de plus en plus souvent, seule. La plus jeune des filles sautillait à mes côtés. « Daniel, dépêche-toi, qu'as-tu besoin de t'arrêter tout le temps ?» C'est qu'il y avait tant à voir. Des trains qui passaient au-delà de la haie en crachant des panaches de fumée, des gouttelettes d'eau qui brillaient sur l'herbe mouillée, le lapin domestique de Sophie. « Daniel, allez, viens !» Et c'est ainsi que mon petit monde s'agrandissait de jour en jour, en même temps que mes mollets se musclaient. « Bientôt, tu viendras avec moi à l'école primaire, » me taquinait Sophie. « Il faudra te plier pour t'asseoir devant le pupitre. »« J'ai peut-être vécu cloîtré, mais je ne suis pas pour autant illettré, » rétorquai-je. En fait, Sophie se moquait bien de savoir si je connaissais le nom des capitales et des ports. C'était les autres aspects de ma vie qui l'intéressaient. Mrs. Marlowe avait défendu à ses filles de me harceler de questions. Si ses sœurs, Marie et Cécilia, respectaient cette interdiction, Sophie, elle, me tombait dessus dès que le docteur ou sa femme quittait la pièce. Avais-je lu tel ou tel livre? Savais-je dessiner des paysages et des chevaux? Puisque j'étais tellement affaiblie à force d'être alitée, ma mère me laissait-elle seule dans la baignoire ou bien restait-elle près de moi? Devait-elle me laver? Ses sœurs s'indignaient. « Sophie, tais-toi! Tu n'as pas honte ?» Ignorant leur remontrance, elle poursuivait son interminable interrogatoire. « Tu as d'autres prénoms que Daniel ?»« Oui, Thomas. » Elle considéra un instant ce prénom avec un certain respect avant de reprendre. « Et tu es né en quelle année ?» Je ne lui dis, et elle compta sur ses doigts. « Ah alors, tu as 4 ans de plus que moi, presque jour pour jour, et il y a à peine 1 an de différence entre Marie et toi. » Je souris. « Donc, Cécilia nous dépasse tous. »« Cécilia ?» lança Sophie avec un geste dédaigneux vers sa sœur aînée. « Elle est tellement vieille qu'on pourrait presque lui trouver un mari. » Une nouvelle pluie de récrimination. « Sophie, vas-tu fermer ton bec ?» Rien à faire. L'inquisition continuait. Un jour que nous étions assis devant le feu, Sophie me demanda à brûle-pourpoint « Tu dois bien avoir un père, Daniel. » Je lançai un regard en coin à Marie et Cécilia, mais je compris que sur ce point, au moins, elles étaient aussi curieuses que leur petite sœur et qu'elles s'abstiendraient de la faire taire. Elles se contentèrent de baisser la tête et reprirent leur broderie en attendant ma réponse. Je fis un effort. Ma mère n'aimait pas trop parler de lui, mais un jour que je l'avais poussée dans ses retranchements, elle m'a dit que Dieu l'avait rappelée à lui juste avant ma naissance. « Que Dieu l'avait rappelée à lui ?» répéta Sophie, perplexe. Marie précisa dans un murmure. « Ça veut dire qu'il est mort. » « Oh !» fit Sophie en se tournant vers moi. « Mais tu n'as pas d'autres parents? Des oncles ou des tantes? Des cousins ?» J'allais secouer la tête lorsque quelque chose m'arrêta. Il y a de ces bouleversements de l'âme et du corps qui provoquent de véritables chaos. Quand une goutte de pluie tombe dans une baignoire pleine d'eau installée depuis des années à la même place, elle dessine à peine une ride à la surface. Mais déplacez cette même baignoire et vous brasserez toute l'eau qu'elle contient. Il me revint brusquement un souvenir. J'étais tout petit et je rampais sur le palier lorsque je vis par une porte entrouverte ma mère à genoux en train de prier. Du fond de ma mémoire montait le son étouffé de sa voix suppliante demandant au Seigneur de protéger son cher petit Daniel et son oncle ce... Il me manquait la fin du prénom. Maintenant que j'étais plus grand, il m'en venait à l'esprit toute une kyrielle. Sébastien, Séraphin, Septime... Tout ce qui me restait de ce souvenir d'enfance fugitif comme l'éclair était l'image de ma mère se retournant et me voyant dans l'encadrement de la porte. Subitement, pâle comme la mort, elle avait interrompu sa prière.